Bonjour Hélène, bienvenue pour cette interview sur le livre que tu as écrit. Il s'appelle Terre éclose, un livre absolument magnifique qui s'adresse à la fois aux femmes mais aux couples et qui parle de la sexualité au féminin. Alors, ce que je te propose Hélène, c'est commencer par te présenter si tu veux bien.
D'accord, très bien. Alors moi, je suis Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et sexothérapeute et j'accompagne les personnes et les couples qui interrogent le sens de leur vie à deux, que ce soit dans la dimension relationnelle, affective ou sexuelle. Et la spécificité de mon cabinet est d'être un cabinet online puisque mon mari déménage souvent. Donc j'ai monté des cabinets en présentiel que j'ai dû fermer. Ça a été tellement douloureux qu'il y a 6 ans, je me suis dit, ben voilà, maintenant je m'installe en cabinet virtuel et j'ai bien fait puisque aujourd'hui nous habitons Madrid. Voilà.
Très bien, merci
Voilà,
beaucoup.
qu'est-ce que je peux dire? Je suis aussi chroniqueuse pour les Fabuleuses au foyer.
Oui.
Je travaille avec Claire de Saint-Lager sur des cycles sexe, sexo, quoi. Voilà. J'ai fait des podcasts pour Famille Chrétienne. Et voilà, le dernier bébé, c'est le livre Terre éclose.
Très bien. Alors justement, ce livre est quand même assez étonnant. Tu vas nous en parler plus précisément. Pourquoi avoir écrit un livre sur l'intimité des femmes?
Je me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais écrire un livre sur l'intimité des femmes. Je suis d'abord partie d'un constat. En entretien, les femmes me posaient beaucoup de questions sur leur sexualité. Et je réalisais que finalement, elles connaissaient mal leur corps, elles connaissaient mal le corps de l'homme. Il y avait des peurs, il y avait des freins, il y avait des représentations. Et je me suis dit, mais en fait, il leur faudrait tout simplement des chroniques un peu pédagogiques qui viendraient les déculpabiliser, qui viendraient aussi les rassurer pour leur dire qu'elles sont normales et que ces questions ont de la valeur et qu'elles sont légitimes. Donc, j'ai d'abord commencé à écrire des chroniques pour les Fabuleuses au foyer. Ces chroniques ont été vraiment appréciées par les femmes et de fil en aiguille, c'est l'Emmanuel, la maison d'édition de l'Emmanuel, qui est venue me chercher pour me demander d'écrire un livre sur la sexualité féminine. Et en fait, finalement, de chronique en chronique, j'ai envie de dire, le livre était là. Donc j'ai repris les chroniques, j'ai repris aussi les podcasts sexo que j'avais écrits. Et j'ai enrichi cette base, je l'ai retravaillée pour en faire un livre. Voilà.
D'accord, voilà la genèse du livre. On va peut-être rentrer un peu plus en détail, enfin dans le fond du livre. Tu dis à un moment, enfin au début, que la sexualité est un chemin de connaissance de soi et de l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Et oui, c'est vrai que quand on commence à interroger la sexualité, finalement, on interroge nos représentations. Donc, on revisite notre histoire personnelle, notre histoire familiale. Et du coup, on en apprend sur nous, sur qu'est-ce qui nous a façonné et qu'est-ce que c'est, cette expérience, qu'est-ce que ces représentations ont apporté dans notre sexualité. Autrement dit, quel a été l'impact de notre histoire familiale et personnelle sur notre sexualité. Donc, déjà, là, c'est un premier chemin de connaissance. On approfondit notre histoire personnelle, on essaie de la comprendre. C'est aussi un chemin de connaissance de soi quand on approfondit la thématique de la sexualité, parce qu'on interroge le corps. Comment est-ce que mon corps fonctionne? Déjà, comment il est fait? Voilà. Comment mon sexe est fait? C'est pour ça que dans le livre Terre éclose, dès le début, en fait, alors le premier chapitre, c'est les représentations, hein, c'est l'histoire de vie sexuelle, mais très vite, on va au sexe de la femme. Comment est-ce qu'il est fait, ce sexe? Et c'est vrai que quand je connais mieux mon corps, eh ben j'en ai moins peur, je suis plus à l'aise avec mon corps. Donc ça vient enrichir la connaissance que j'ai de moi-même, hein, tout simplement. Et quand je comprends aussi d'un point de vue physiologique, d'un point de vue émotionnel, comment fonctionne la sexualité sur mon propre corps, eh ben forcément, c'est comme si je me sentais plus unifiée, plus reliée. Et ça permet aux appréhensions, ça permet aux fausses croyances, aux peurs, ben voilà, de prendre un peu moins de place. Ça ne fait pas tout tomber hein, de mieux se connaître, mais voilà, les peurs, les appréhensions, les non-dits, les tabous prennent moins de place et du coup nous rendent plus libres dans tout libre, voilà, tout simplement plus libres par rapport à nous-mêmes. On se connaît mieux Et si on fait le chemin, le même chemin, un chemin similaire vers l'homme, on apprend à entendre son histoire, celui qu'on aime, voilà, celui qu'on a choisi, si on essaye d'écouter son histoire, ses représentations, si on s'intéresse à son sexe, c'est-à-dire à son corps aussi dans la globalité, mais aussi à son sexe, si on s'intéresse à la physiologie de sa sexualité, ça nous permet aussi de mieux le connaître, d'en avoir moins peur, et ça permet une rencontre plus fluide, plus paisible.
C'est très intéressant parce qu'effectivement, tu décris beaucoup dans le livre le sexe de la femme, vraiment dans ses moindres détails. Et en fait, comme tu le dis si bien, on a l'impression que rentrer dans cette connaissance de cette intimité profonde ouvre des chemins, en fait. C'est un peu ça que tu as voulu faire.
Oui, c'est ça, c'est ouvrir des fenêtres. Moi, c'est vraiment
Voilà.
l'image que je prends pour les femmes. Ça permet de remettre un petit peu d'espace, ça permet de remettre de la respiration. Et c'est vrai que intuitivement, les femmes ne vont pas forcément découvrir leur sexe parce que ce sexe est un lieu caché, c'est un sexe intérieur. Donc, une femme, pour connaître son sexe, elle doit prendre un miroir ou elle doit utiliser ses mains. Donc c'est moins spontané, peut-être que c'est plus effrayant aussi pour elle, là où un homme est habitué à voir son sexe, a pu jouer avec quand il était petit, quand il était enfant. Donc il y a un rapport au sexe chez l'homme qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané que chez la femme. La femme, elle doit faire un effort, elle doit poser une intention pour aller découvrir son sexe. Donc, et pourtant, ce sexe fait partie de notre corps. Hein, et pourtant, ce sexe a une influence sur notre corps. C'est vraiment le lieu du cycle menstruel, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu du plaisir. Donc, pour moi, c'est vraiment important, bah, de le connaître et d'apprendre à l'aimer.
Tu dis aussi que le corps est un lieu de rencontre, mais aussi de représentation, de frustration, de fermeture. Et là, ça fait écho un peu à de la souffrance. Et est-ce que tu peux développer un petit peu cela?
Oui, ça j'en parle beaucoup. Par exemple, quand je parle de la relecture de vie sexuelle, c'est tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons pu entendre, tout ce que notre famille a peut-être voulu aussi nous transmettre de façon d'ailleurs bienveillante. Il n'y a pas forcément que de la malveillance, hein, quand on fait des relectures d'histoire de vie. Mais forcément, ça a un impact et la personne va élaborer ces choses, ces expériences, les valeurs qu'on aura pu lui transmettre, elle va les élaborer à sa façon, hein, en fonction de sa sensibilité aussi. Et c'est vrai qu'il y a certaines expériences qui vont provoquer des ouvertures, c'est-à-dire, voilà, je vais avoir, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a transmis, j'ai le sentiment, l'intuition que je suis une femme de valeur, donc je suis ouverte vers l'autre, vers la rencontre. Mais malheureusement, certaines transmissions, certaines expériences sont douloureuses, et vont provoquer des fermetures. La fermeture, c'est la peur. J'ai peur de rencontrer l'autre parce que j'ai élaboré dans mon passé que la sexualité pouvait être une expérience dangereuse. Voilà. Donc, c'est pour ça que la façon d'appréhender la sexualité, est vraiment différente d'une personne à l'autre. Et c'est peut-être un berceau de joie, mais c'est peut-être aussi un berceau de peur ou alors de frustration quand je n'ai pas été écoutée suffisamment dans mon questionnement, dans mes émotions. Hein. Tout ça vient se plaquer en fait sur nous, dans notre psychisme, dans nos émotions. Et voilà, ça crée des barrières qui sont plus ou moins fortes pour entrer en relation avec l'autre et entrer en relation aussi avec
Avec
soi
soi-même,
dans sa sexualité. Comment je me vis femme, comment j'appréhende mon sexe, comment je vis les choses que je ressens dans mon corps. Et bien, si j'ai une appréhension négative, je vais être fermée. Donc, c'est comme si je serais coupée en deux par rapport à moi-même. Mais quand j'ai des expériences positives, forcément, c'est plus facile de descendre en soi et de comprendre cette sexualité qui nous vitalise aussi. Voilà.
Est-ce que tu aurais un exemple que tu as eu en consultation de sexologue qui peut illustrer en fait cette frustration ou ces images négatives ou un exemple concret pour que ce soit plus
Bon, l'exemple concret qui revient le plus souvent, c'est dans ma famille, on n'en parlait pas, c'était tabou ou c'était sale. Hein? Donc, comme il y avait un non-dit, l'enfant, puis l'adolescent, puis le jeune adulte n'a pas pu poser ses questions, des questions qui pouvaient l'angoisser parfois, hein, ou tout simplement être présente. Donc, il n'y a pas eu de réponse à ces questions, donc ça provoque de la frustration. Et puis, ça provoque aussi des fausses croyances. Si on n'en parlait pas, c'est que peut-être que c'est dangereux ou peut-être que c'est sale. En tout cas, on a toujours plus peur de quelque chose que l'on ne connaît pas ou qui a été présenté comme tabou dans la famille. Hein, on en a toujours plus peur que quand le sujet a été amené en famille, même de façon maladroite. Hein, voilà. La chose la plus concrète qui revient en tabou et qui a un impact négatif sur la sexualité, c'est on n'en parlait pas, donc soit c'est dangereux, soit c'est sale, donc je me protège par rapport à ça. Et de façon régulière, bien entendu, on a les abus. Hein. Alors, ça va pas forcément jusqu'au viol, mais il y a toutes sortes d'abus. Et les abus sont vécus comme un traumatisme d'intrusion. Et comme la sexualité implique la pénétration, et bien forcément, quand on a été intrusé une première fois, traumatisé une première fois, on se protège par rapport à ça. Donc voilà, j'ai un filtre. Mon expérience, en tout cas, me dit qu'il faut se protéger. Donc même si aujourd'hui je suis en couple avec une femme que j'aime ou un homme que j'aime, eh ben je continue de m'en protéger parce que je me suis programmée comme ça. C'est comme une programmation, en fait.
Une protection en fait, ouais.
Ouais.
Tu dis aussi que c'est important de connaître le sexe de l'homme et son fonctionnement pour la femme. Est-ce que tu peux expliquer ça?
Ben oui, dans la sexualité, la femme est pénétrée par l'homme. Donc l'homme, finalement, devient son invité, c'est vient me visiter en moi, dans mon corps, dans ma maison, on pourrait presque dire. Donc c'est vrai qu'on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. On a besoin de connaître son invité. On a besoin de le connaître physiologiquement, corporellement, émotionnellement, psychologiquement, etc. Donc les femmes savent construire une relation émotionnelle avec relationnelle avec un homme. Et quand il y a une bonne amitié conjugale, c'est bien, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ont peur du sexe de l'homme. Elles sont impressionnées par ses formes, par son contour, par son érection. Elles y voient de la force. Elles ont peur d'être déchirées, enfin, elles ont un regard négatif sur ce sexe. Et c'est vrai que connaître ce sexe, savoir comment il fonctionne, savoir qu'une érection n'est pas le signe d'un désir de faire l'amour absolu, mais qu'une érection, c'est aussi un signe de bonne santé le matin, ou que c'est normal qu'un homme ait des érections la nuit. Rien que de mieux comprendre le fonctionnement de la sexualité de l'homme, ça permet de... Ah oui, en fait, mon homme n'est pas un obsédé sexuel, c'est des choses que j'entends parfois en entretien. Et puis après, juste voilà, de regarder ce sexe qui est différent du sexe de la femme. Ce qui revient en entretien, c'est il y a beaucoup de peau, c'est flasque, ou c'est trop grand, c'est trop gros, c'est impressionnant. Juste voilà, de voir comment c'est fait, voilà, comment cet invité est fait, ça permet à la femme de mieux s'ouvrir. Hein, et d'accueillir ce sexe dans la relation sexuelle et de vivre quelque chose qui soit aussi de l'ordre de la joie relationnelle, de la rencontre en fait, tout simplement. Voilà.
Ouais, c'est très intéressant. Tu parles aussi d'un autre sujet qui alors, à mon avis, est moins connu. C'est le vaginisme qui touche beaucoup de femmes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et puis quelles conséquences ça peut avoir sur la vie de couple aussi?
Alors, le vaginisme, c'est une contracture musculaire spontanée, hein, qui n'est pas voulue, des muscles vaginaux, hein, des muscles du périnée qui entourent le vagin, si vous préférez. Si bien que, comme il y a une contracture, le vagin est complètement fermé et il est impénétrable. Alors, c'est une souffrance pour les femmes, mais aussi pour les couples. C'est une souffrance pour les femmes parce qu'elles ont l'impression d'être coupées d'une partie d'elles-mêmes, elles ont l'impression de ne pas pouvoir accéder à une sexualité adulte, elles ont l'impression d'en être privées, puis souvent, en fait, elles ne comprennent pas pourquoi leur corps dit non, alors que leur cœur dit oui. Donc, voilà, elles ont l'impression d'être coupées en deux. Voilà. Donc ça provoque une souffrance parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise qui leur échappent. Voilà. Pourquoi, quand je dis oui, mon corps dit non? Donc, elles ont besoin de faire un travail de relecture de vie sexuelle, souvent, et de représentation pour comprendre cette fermeture. Et puis, c'est une souffrance aussi pour les couples, parce que du coup, pareil, hein, ça les prive d'une sexualité. Eux, ils parlent de sexualité complète, c'est-à-dire que ces couples ont une sexualité, ont de la joie à se rencontrer, ont même du plaisir à se rencontrer, mais ils ont l'impression de ne pas vivre, de ne pas pouvoir vivre une sexualité aboutie. Donc ça crée beaucoup de frustration. Et les hommes se sentent souvent coupables de ne pas savoir ouvrir leur femme, et les femmes se sentent souvent coupables de ne pas pouvoir accueillir leur homme. Donc en fait, il y a de la culpabilité de partout, il y a de la honte aussi de partout, parce qu'ils se sentent nuls en se disant, mais ça marche pour les uns, pourquoi ça marche pas pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'on est coincé, complètement négo, etc. Et ça va vraiment besoin d'être accompagné pour le coup, en entretien. Et troisième souffrance, ben, ce sont des couples qui du coup ne peuvent pas avoir d'enfants. Hein? Alors, en réalité, on peut avoir un enfant quand on est vaginique. Hein? On peut prendre une pipette de Doliprane si jamais le vagin s'ouvre un petit peu, et puis mettre du sperme dans la pipette de Doliprane et insérer le sperme comme ça. Mais il y a un couple qui me disait, ouais, mais en fait, moi, j'ai envie de le faire, cet enfant. Voilà. C'est, on a envie de le faire ensemble, on n'a pas envie de passer par une pipette de Doliprane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ces couples sont en espérance d'enfant, et sont il y a la souffrance du couple dans sa sexualité, mais il y a la souffrance des parents aussi qui s'ajoute à la première. Et non, c'est douloureux, oui, c'est douloureux.
Et donc pour en sortir, tu dis qu'il faut quand même aller consulter. Enfin, les personnes, les femmes ne peuvent pas en sortir toutes seules comme ça. Il faut qu'elles fassent un travail justement sur les représentations qu'elles ont de la
Oui.
sexualité. C'est.
Alors, il y a des femmes qui s'en sortent toutes seules. Hein. Elles me disent bien que, voilà, que leur compagnon, leur mari, leur conjoint a eu en tout cas des intuitions magiques, et qu'il a su les ouvrir, et que grâce à cette délicatesse, elles se sont ouvertes. Mais c'est vrai que ça fait pas tout, en fait. Parfois, ces femmes ressentent encore des douleurs dans le fond du vagin, comme s'il y avait encore des contractures qui restaient, ou alors elles ne sont pas à l'aise dans la sexualité. Donc c'est comme si elles me parlent de vaginisme psychologique, en fait. Hein? Mais voilà, mais elles peuvent s'ouvrir elles seules, ou elles peuvent s'ouvrir avec un conjoint qui est délicat et qui aura de bonnes intuitions. Et c'est vrai que de nombreuses femmes ont quand même besoin d'être accompagnées, surtout qu'en fait, on en guérit très bien du vaginisme. Il y a surtout la peur de la sexualité derrière, la peur d'être déchirée. Et puis il y a aussi cette idée que la femme ne s'autorise pas à devenir femme. Donc elle se ferme. C'est comme si elle restait la petite fille dans des loyautés familiales, la petite fille de sa maman. Et donc elle peut pas devenir femme. Et ça a besoin d'être voilà, d'être travaillé en entretien. Et parfois aussi, on le voit quand il y a eu des problématiques d'intrusion psychologique ou corporelle, bah le corps se ferme, parce que intrusion, enfin pénétration est égale à intrusion, intrusion est égale à danger. Donc la femme se ferme.
Se protège. D'accord.
Voilà.
Tu parles aussi d'un autre sujet qui est très intéressant, qui intéresse beaucoup les couples, c'est le désir sexuel qui va et qui vient. Tu
Oui.
dis une phrase qui est intéressante, il nous met en action et agit comme un moteur. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée-là?
Oui, alors en fait, c'est pas tant le désir sexuel qui nous met en action, qui agit comme un moteur, c'est le désir dans sa globalité. C'est un élan de vie qui nous pousse à nous lever le matin, à faire des projets, à rencontrer l'autre et à aimer aussi. Donc le désir, c'est vraiment une force de vie, c'est un élan de vie. Le désir sexuel est aussi un élan de vie, une énergie de vie, mais dans cette spécificité sexuelle. Voilà, ça c'est juste pour di distinguer le désir dans sa globalité et le désir sexuel qui va être déployé dans quelque chose de plus intime, hein, au sein du couple. Et ce désir sexuel, effectivement, il va, il vient, parce que le désir sexuel est très fragile, il est sensible au stress. Il est sensible à la fatigue, il est sensible à la routine, enfin, il est sensible à plein de choses, en fait. Du coup, quand on est un jeune couple, tout spontané, qu'on se découvre, eh ben, on est encore dans cet élan de rencontre, on a envie de se rapprocher de l'autre, de le connaître, etc. Mais quand on est dans un couple installé, avec le désir de construire quelque chose de stable et de durable, ben, le désir, il passe dans le panier de linge sale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la routine. Pour construire un couple, on a besoin de cette routine quand même. Je suis pas en train de dire la routine c'est nul. C'est-à-dire qu'on a besoin de repères, on a besoin
Le
de choses
rituel,
stables,
le
et cette stabilité,
rituel.
de rituel, et cette stabilité va permettre au couple de travailler son attachement à l'autre, et puis aussi éventuellement de construire une famille, parce qu'on a besoin de stabilité pour construire une famille. Mais du coup, hop, le désir, il passe dans le panier de linge sale, il passe dessous les rancœurs, les non-dits, les disputes, la fatigue, et ça s'accumule, si bien qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de désir. Donc c'est pour ça que le désir est fluctuant, et en fonction aussi des enfants qui arrivent, en fonction de l'âge aussi, eh ben, le désir fait des va-et-vient. Et ça, c'est normal. Ça, c'est vraiment normal. Donc, quand j'ai des femmes qui interrogent leur désir sexuel en entretien, déjà, on pose juste ça. En fait, c'est normal. On n'est pas des machines. On ne peut pas être au top, hein, à chaque fois. Par contre, c'est peut-être effectivement intéressant, important dans le couple d'entretenir ce désir. Pas que le désir sexuel, mais le désir d'intimité. Hein, voilà, le désir de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de se souder, de se rapprocher. Et de ce désir d'intimité découlera le désir sexuel.
D'accord. On dit souvent, enfin, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que ce sont plus les femmes qui sont touchées par le manque de désir que les hommes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça touche aussi les hommes?
Alors, c'était vrai, mais ça ne l'est plus autant que ça. Comment dire, je pense qu'aujourd'hui, comme il y a la parole s'est libérée autour de la sexualité, donc les femmes revendiquent plein de choses au niveau de la sexualité, le désir, notamment le plaisir, c'est presque devenu une injonction, hein. Mais les hommes, on pourrait dire que le mouvement est un peu différent. C'est comme s'ils revendiquaient le droit aussi de ne pas avoir de désir de temps en temps, et
D'accord.
c'est comme s'ils s'autorisaient aussi à déposer leur manque de plaisir. C'est-à-dire que quand on écoute les hommes qui viennent de plus en plus en entretien, moi je vois qu'il y a vraiment une évolution au fil des années. Les hommes viennent de plus en plus en entretien et déposent de plus en plus en entretien. Ils ont moins de difficultés à dire, mais en fait moi j'ai pas de désir parce que je suis trop stressée au boulot, parce que moi aussi j'ai mes rancœurs par rapport à ma femme et j'ai pas envie de faire l'amour avec elle. En fait ils ont les mêmes problématiques que les femmes, sauf qu'aujourd'hui ils s'autorisent à les déposer. Avec beaucoup moins de culpabilité, c'est comme si autrefois ils ne s'autorisaient pas à les déposer, c'est comme s'ils s'enfermaient dans une projection qu'on faisait sur eux de la sexualité masculine. Un homme, il a toujours envie, ben en fait, non, pas du tout. En fait, un homme, c'est pas une machine. Lui aussi, il a ses problématiques de désir, mais c'est vrai qu'on en parle moins et ça affecte peut-être un peu plus leur virilité. Voilà, parce qu'ils sont peut-être moins habitués aussi à l'entendre, à la partager, à l'élaborer. Mais c'est pareil pour le plaisir. Moi, j'ai de plus en plus d'hommes qui me disent en entretien, vous savez, Hélène, je peux avoir une éjaculation, mais j'ai pas de plaisir. Voilà. Ou j'ai pas tout le temps du plaisir.
Justement, je voulais donc tu fais le lien là avec le plaisir. Tu dis dans ton livre que le plaisir est souvent une injonction sociale, enfin sociétale même, que la société impose finalement à ce que dès qu'il y a un rapport sexuel, il y ait du plaisir pour l'un et pour l'autre. Est-ce que tu peux développer puis nous dire finalement si c'est la réalité, si c'est important, s'il faut vraiment avoir envie de ça, ou est-ce qu'on peut vivre une sexualité épanouie d'une autre manière?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu une injonction au plaisir, hein. Depuis mai 68, on est un petit peu dans l'escalade. Et c'est comme s'il fallait jouir impérativement à chaque rapport sexuel et de plus en plus fort. Bon, puis la pornographie est venue aussi biaiser ce regard qu'on a sur la sexualité. Donc, il y avait une injonction à avoir du plaisir. Chez les femmes, il y a cette injonction à avoir un orgasme, à être éventuellement multi-orgasmique. Mais je trouve que c'est en train de changer en fait. Aujourd'hui, on en revient tout doucement. Hein. C'est infime. Moi, je vois ça en entretien, mais c'est infime. C'est aujourd'hui, j'ai envie de dire, la nouvelle injonction, ce serait presque d'être dans une sexualité impérative, impérativement de connexion, de communication, de communion plutôt, de synchronisation. Et c'est pas mieux non plus de toute façon. De toute façon, l'injonction, c'est pas bien dans la sexualité.
Ah
Donc. Et c'est vrai qu'il y a une injonction à jouir, il y a une injonction à ce que la sexualité soit parfaite, ce qui crée une idéalisation de la sexualité et donc forcément des déceptions.
Des déceptions, c'est
Et
ça.
forcément des déceptions. Donc
Donc,
voilà.
en fait, ce que tu voudrais dire, c'est que un couple peut se dire et puis ressentir qu'il a une sexualité qui est épanouissante, même s'il n'y a pas cette jouissance et cet orgasme à chaque fois qu'il y a une union des corps.
Alors, il y a un juste milieu. Les femmes ou les hommes qui n'ont vraiment pas de plaisir dans leur sexualité, ils disent qu'ils n'ont pas de bénéfice à y retourner. Donc, il faut
Ouais.
quand même qu'il y en ait un peu, quoi.
Voilà.
Alors, pas forcément un orgasme, mais faut qu'il quand même que la personne puisse se relier à ce qu'elle ressent et qu'elle puisse sentir que c'est agréable, voire jouissif. C'est-à-dire, la jouissance, pour moi, c'est juste avant l'orgasme. Hein. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir sentir ce bénéfice agréable. Je parle même pas de jouissance, juste de plaisir agréable. Qu'on ne soit pas que dans la joie, hein. Donc la joie c'est plutôt émotionnel, enfin c'est émotionnel, la joie des retrouvailles. Donc ce plaisir, faut quand même qu'il soit quand même, faut qu'il soit un peu là, mais on n'est pas dans la course à l'orgasme. Voilà. Mais oui, un couple peut avoir une sexualité épanouie sans forcément être dans la course à l'orgasme. On le voit beaucoup plus chez les couples, ce discours, on l'entend beaucoup plus chez les couples qui ont déjà un peu de maturité, qui ont pris du recul par rapport à cette sexualité de décharge qu'on voit beaucoup chez les jeunes couples quand tout est neuf, quand ils sont plus dans la pulsion que dans le désir de reliance. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se mûrit, mais oui, un couple peut être heureux. Même s'il n'y a pas forcément à chaque fois un orgasme, même s'il n'y a pas forcément à chaque fois de la jouissance,
Il faut
parce que
sortir des injonctions en fait, et c'est voilà, mais chaque couple doit finalement trouver peut-être le rythme qui l'épanouit, quoi. C'est
c'est à chaque couple de choisir son, moi j'appelle ça un scénario sexuel, c'est quelle est notre fréquence? Il y a une femme qui me disait quelque chose de très joli, elle me disait: nous, notre fréquence, on sent que c'est à partir du moment où on se manque qu'on se dit, bon là, il faut quand même faire l'amour, parce qu'on se manque. Donc, c'était pas tous les jours, c'était pas tous les mois non plus, mais on n'était pas dans le fameux 3 fois par semaine qu'on peut lire parfois dans des dates qui créent des représentations qui ne veulent rien dire. Et donc voilà, c'est quand est-ce que l'autre me manque? Quand est-ce que finalement j'ai besoin de me shooter à lui, hein, d'une certaine façon? Pour vivifier mon couple et nourrir mon couple. Donc, la fréquence, voilà, c'est au couple de la penser. Et bon, ce serait trop facile si les couples, les deux personnes pensaient la
Était
même
sur la
chose.
même fréquence.
Et parfois, les femmes ont envie d'un peu plus, ou parfois, les hommes ont envie d'un peu plus. Donc, ça, voilà, il faut apprendre à accompagner l'autre dans ses baisses de désir aussi, être attentif à ça, hein, comprendre. Parce que le désir est fluctuant, donc voilà, donc c'est un chemin de maturité, hein. Et puis c'est au couple d'établir son scénario sexuel, et les hommes ont beaucoup à cheminer par rapport au fait que si leur femme n'a pas d'orgasme, c'est pas grave, ça fera pas d'eux un mauvais amant. Et les femmes, elles le disent en entretien: oui, j'ai du mal à jouir, oui, j'ai pas d'orgasme, mais en fait, j'aime faire l'amour avec toi, et ça ne fait pas de toi un mauvais amant. Donc voilà, c'est
Déculpabiliser en fait, hein,
déculpabiliser.
D'accord. Tu parles aussi dans ton livre des 5 verbes au service de l'amour. Est-ce que tu peux les nommer?
Oui, alors, il y a le verbe, il faut que je les compte parce que j'en dis toujours un. Il y a le verbe demander, prendre, recevoir, donner et refuser.
D'accord. Tu peux expliquer
Et
un petit peu?
alors, ces verbes me semblent tout à fait intéressants. Ils ne sont pas de moi. C'est une sexologue américaine qui, un jour, avait fait une chronique sur ces 5 verbes et je trouvais que c'était tout à fait intéressant. Donc, elle expliquait qu'elle s'en servait en entretien pour faire parler les couples. Et c'est vrai que quand on fait parler les couples autour de ces 5 verbes, c'est très intéressant parce que déjà, eux, ils se sentent guidés. Donc, ils sont moins stressés à l'idée de devoir parler de leur sexualité quand ils savent pas par où commencer. Et puis, ça donne une élaboration tout à fait intéressante, un échange tout à fait intéressant. Donc, la consigne, c'est dans la sexualité, qu'est-ce qui m'est facile? Je vais prendre le verbe donner, hein. Qu'est-ce qui m'est facile de donner et qu'est-ce qui m'est difficile de donner? Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire donner. Et on décline cette consigne à tous les verbes pour demander qu'est-ce qui m'est facile de demander, qu'est-ce qui m'est difficile de demander, et finalement, pour moi, demander qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, j'ai pas de réponse toute faite à te donner parce que chaque couple est tellement différent. Mais voilà, si on prend les cinq verbes et qu'on les décline de cette façon, ça permet au couple de se rencontrer et d'avoir un dialogue probablement plus profond que quand on est sur le canapé à dire, alors dis-moi, parce qu'ils me disent dans les couples, ils se mettent sur le canapé et l'homme dit à la femme, allez, dis-moi ce qui te fait plaisir. La femme, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Et si on lui demande de détricoter sa pensée avec les cinq verbes, ça va pouvoir, ça va l'aider à se relier finalement à ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle se sent capable de donner, ce qu'elle ne se sent pas capable de donner, comment je peux donner à l'autre et pourquoi aussi j'ai envie de donner ça et pourquoi je n'ai pas envie de donner ça. Donc ça permet un travail très très riche.
Très approfondi, c'est très intéressant comme outil. Et pour rester dans le chiffre 5, tu dis aussi qu'il faut aimer avec ses cinq sens.
Et oui, on peut pas aimer qu'avec sa tête. Il y a plein de choses qui sont écrites sur la sexualité. Le livre d'Éric Claude en fait partie. Mais la sexualité, c'est bien beau de la penser, mais à un moment, faut la vivre, quoi. Et moi, je le dis aux personnes qui viennent en sexothérapie, je leur dis, bon, voilà, en entretien, on va penser, on va élaborer, mais après, à vous de vivre cette sexualité. Il faut qu'elle descende dans le corps. Et l'un des moyens de descendre dans son corps, c'est de se relier aux cinq sens. Comment je sens l'autre? Mais pour ça, il faut expérimenter. C'est pas magique. Hein. Il faut comment je sens l'autre? Est-ce que j'aime son odeur? Est-ce que son odeur va m'exciter, me permettre de me relier à lui ou à elle ou pas? Et puis on peut décliner ça avec les cinq sens. Donc, l'odeur, la vue, le toucher, l'ouïe et le goût. Voilà. Et comment je goûte l'autre, par exemple? Comment je goûte ses baisers? Est-ce que je me suis déjà posé la question du goût des baisers de l'autre? Et ça, quand on travaille sur les cinq sens, les couples me disez bien qu'il y a des questions qui se sont jamais posées.
Ouais, c'est ça.
Quelle odeur a l'autre?
Ouais.
Attendez, il faut que je réfléchisse. Quelle odeur? Bon, en fait, j'en sais. Mais les mamans, même les papas, ils sniffent leur bébé. Vous savez, ils prennent un grand shoot de l'odeur de leur bébé. Ça leur fait du bien. Mais il faut se shooter à l'odeur de l'autre, il faut découvrir le goût de l'autre, la texture de sa peau, contempler les courbes. Et là, on fait appel aux cinq sens. On est dans une sexualité incarnée, dans une sexualité charnelle. Donc, il faut faire vivre son corps.
C'est très intéressant. On va arriver à la fin de notre entretien là. J'avais envie de te poser la question de situations rencontrées, mais peut-être que, ou d'exercices de conseils que tu aurais à donner, mais là tu en as déjà donné. Je te demanderais plutôt, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui vont t'écouter comme chose à entreprendre pour qu'ils soient plus épanouis dans leur sexualité? Est-ce que tu auras un petit conseil ou une invitation hein?
Mais écoute, je pense au dernier entretien, par exemple, que j'ai eu hier. Le couple est très attaché à avoir une sexualité de connexion. Mais la connexion, en fait, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire quoi être connecté? Et je pense que, alors c'est surtout des jeunes couples de 35, 36, 37 ans qui sont dans ces représentations-là, qui sont dans ce grand désir de sexualité de connexion. C'est bien, mais souvent derrière il y a une idéalisation de la sexualité. On a pu en parler tout à l'heure. Et j'ai envie d'inviter les couples à leur dire, attendez, la sexualité idéale, elle n'existe pas. Et chaque période de vie va nous inviter à découvrir un champ de la sexualité. Et dans notre vie de couple, eh ben, on va découvrir selon nos périodes de vie, selon notre âge, parce que le corps change, hein. Donc les perceptions, elles changent, la sensibilité, elle change aussi. On va découvrir des choses qui vont nous aider à mûrir, à nous rencontrer. Et ce que je dis au couple, je leur dis, mais en fait, c'est génial, c'est fascinant, parce que du coup, la sexualité, si on l'appréhende comme ça, on aura toujours quelque chose à découvrir. Donc voilà, plutôt appréhender la sexualité comme un espace de découverte de l'autre, de découverte positive, plutôt que de se dire, il faut absolument qu'on soit en communion, il faut absolument qu'on soit en connexion, même si la communion, j'entends, hein, c'est un bel idéal, mais on est dans l'injonction à nouveau.
Donc,
Absolument.
Mais écoute, je te remercie beaucoup, Hélène, et pour ce bel entretien, toutes les pistes que tu as données. Je conseille donc à tous ceux qui nous écoutent de se procurer ton livre qui s'appelle Terre éclose, qui est un trésor en fait pour les couples, pour les femmes, pour les hommes et pour voilà, vivre un épanouissement sexuel dans sa vie de couple. Merci beaucoup.